Et ce soir, on vous donne la parole encore une fois. On va ouvrir les lignes dans les prochaines minutes. Notre question, on veut savoir si vous avez un rapport sain ou malsain avec la nourriture. Par exemple, est-ce que vous avez eu des troubles alimentaires? On a vu que ça avait augmenté avec la pandémie, là. Est-ce que c'est votre cas? Comment ça se passe chez vous? On veut tout savoir. Donc, vous pouvez nous appeler 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Mais d'abord, voici l'entrevue qui a retenu notre attention aujourd'hui, celle de Dr. Caroline Couache.
Qu'est-ce que ça va changer concrètement? Une opération de test rapide dans ces écoles?
Bien, j'ai l'impression que comme de cette façon-là, on va être capable de permettre aux enfants de continuer à aller à l'école, même quand ils ont peut-être des symptômes de rhume qui pourraient être dus à d'autres virus. Et parce qu'en fait, le but, là, c'est vraiment de leur permettre d'aller à l'école le plus possible sans mettre à risque les autres autour d'eux, sachant qu'un test rapide est capable de trouver une infection à COVID qui a une charge virale plus élevée et donc être capable de les identifier sur place rapidement et de leur laisser aller à l'école s'ils sont négatifs, là, quitte à les répéter par la suite.
Donc, l'idée, Caroline, ce n'est pas de tester tout le monde. C'est de tester ceux qui ressentent des symptômes, leur dire, regarde, gêne-toi pas, là. Sois pas hésitant. Si tu sens que tu commences à avoir mal à la gorge, tu commences à toucher, tu commences à couler du nez, bon, ben garde, dans l'école, à tel endroit, dans tel local, là, va voir la dame, va voir le monsieur, là, puis il va te tester, tu vas voir, ça va prendre. Ça prend combien de temps, Caroline? Ça prend 5 minutes?
Ça prend 10 secondes par narine.
Le résultat du
15 minutes.
15 minutes.
Oui. Mais c'est vraiment comme ça qu'on avait fait l'année dernière, entre autres, dans une école de Montréal-Nord, là, à Calixa-la-Vallée, quand les élèves avaient l'impression d'avoir des symptômes ou ils savaient parfois qu'à la maison, il y avait un cas, mais qu'ils étaient allés à l'école pareil. Ben, à ce moment-là, on pouvait les tester, puis si jamais ils étaient positifs, on les retirait parce que, tu sais, ce que ça nous permet de faire, c'est de faire le tri entre ce virus-là et tous les autres virus qui, présentement, sont en train de se transmettre un peu partout.
Et donc, ce qu'on veut éviter, c'est des fermetures de classe ou pire encore, des fermetures d'école. C'est éviter, dans le fond, qu'un cas se transforme en éclosion.
Ça, mais surtout éviter d'être obligé de demander à tout le monde de rester à la maison tout le temps au moindre symptôme. Parce que, contrairement à l'année passée, où la plupart des gens qui avaient des symptômes de virus respiratoire, c'était dû à la COVID, ben cette année, on le voit déjà, là, on a énormément de RSV, on a déjà commencé à avoir de l'influenza, on a tous les autres virus respiratoires qui sont revenus à la fête.
Qu'est-ce que tu as dit, RSV, pardonne-moi, RSV, c'est quoi?
C'est le virus respiratoire syncytial qui cause des bronchiolites chez les petits bébés, mais qui cause des rhumes chez les plus grands.
Okay.
Fait que quand on regarde quelqu'un qui a un peu de symptômes qui peut ressembler à un rhume, on ne sait pas si c'est la COVID ou si c'est autre chose. Et donc, d'avoir ces tests rapides-là nous permet au moins de trouver ceux qui ont une charge virale élevée. Puis habituellement, ceux qui ont des symptômes, si c'est dû à la COVID, on les trouve là, dans, je vous dirais, 8 fois sur 10.
Est-ce que tu, dans ton esprit, Caroline, est-ce que ces tests rapides, c'est aussi une espèce de transition vers le moment où on va pouvoir avoir un vaccin pour les 11 ans et moins?
Oui, en autant que les enfants se fassent vacciner, c'est-à-dire que présentement, on a des vaccins pour les 12 ans et plus. Il n'en demeure pas moins que dans les 72 écoles listées, il y a des écoles secondaires là-dedans aussi probablement.
Ah oui.
Parce que la couverture vaccinale n'est pas assez élevée dans ces écoles-là et que donc on essaye encore une fois là, de rajouter une couche de filet de sécurité pour justement pas que ça parte en grosse éclosion.
Donc, dans ces écoles secondaires, Caroline, en plus de l'opération test rapide, il faudrait mener une opération vaccination.
Bien, ce que j'en comprends, c'est qu'ils le font aussi, là, c'est-à-dire que les campagnes de vaccination scolaire sont en train de se mettre en place. Parfois, pendant l'été, tu sais, les enfants sont pas allés parce que peu importe la raison, mais quand on est à l'école, il y a beaucoup plus de chances à ce moment-là que les 14 ans et plus s'y rendent directement.
Et ce soir, à l'émission, on va vous poser la question sur notre rapport avec la nourriture. Évidemment, on est en période de pandémie, toujours, ça fait 18 mois, puis on se rend compte qu'il y a plusieurs études qui ont été faites durant les 18 derniers mois, à savoir, est-ce que la pandémie, ça a changé quelque chose dans notre façon de se nourrir? Bien, apparemment que oui, ça a fait exploser le nombre de troubles alimentaires. Nouvelle étude qui a été présentée la semaine passée, justement, dans la presse. Il y a des adolescentes qui ont témoigné, justement, de la détresse qu'elles ont dû combattre durant les derniers mois. Il y a une autre étude qui a été faite cette fois par des chercheurs de l'Université de Trois-Rivières, du Québec à Trois-Rivières, où on disait que le confinement, ça a eu des répercussions négatives sur le comportement alimentaire des individus. Et c'est certain que quand on se retrouve en télétravail, qu'on reste à la maison, qu'on mange à la maison, ben peut-être qu'on mange davantage. Peut-être que ça a eu des effets positifs aussi pour vous, la pandémie. Moi, je sais très bien que je me suis mis à cuisiner davantage puis à essayer toutes sortes de recettes parce qu'évidemment, quand les restaurants étaient fermés, on pouvait aller pour le take-out, mais c'est pas la même chose. Alors, de ce côté-là, ça fait en sorte que il y a des gens, ben oui, qui ont développé des problèmes. Il y a des gens qui, je pense à vous qui êtes sur la route, là, les camionneurs, puis tout ça, souvent on se promène, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, on arrête pour aller chercher un petit take-out, puis souvent, ben c'est dans des restos de restauration rapide. Puis d'ailleurs, la recherche, en fait, l'étude nous a démontré qu'il y avait un nouveau type de mangeur, le mangeur perceptuel, c'est quoi ça? Je vais vous raconter tout ça au retour. Évidemment, on s'arrête un instant pour les nouvelles. Si vous avez envie de jaser de bouffe avec moi ce soir, 514-790-9850, 1-866-790-9850. Et ce soir, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, si vous avez déjà soupé, mais on jase de bouffe ce soir. On veut savoir, est-ce que vous avez un rapport sain ou malsain avec la nourriture? Ce que ça veut dire, quel type de mangeur vous êtes, par exemple. Puis, en début d'émission, on s'est dit, Justine, qu'on était pour se mouiller, pour dire exactement comment est-ce qu'on vit ça, nous, par rapport avec la bouffe. Toi, de ton côté, je sais que tu grignotes parce que je te vois là, quand tu arrives à la station. Tu manges des petites affaires. Là.
Tout le temps. Ouais. Moi, c'est tout le temps ça. Mon chum dirait tellement. Puis elle, c'est une petite entrée, des petites crudités par-ci, par-là. Et ma fille fait la même chose. C'est incroyable à quel point aussi, envers nos enfants,
oui,
ils reflètent, en fait, ils refont un peu la même chose. Et souvent, je ne mangerai pas beaucoup au repas. Donc, on dirait que je mange un peu toute la journée à différentes, tu sais, des petites portions. Mais même au restaurant, là, moi, les grosses assiettes, tu m'oublies, ça va être vraiment
des petites entrées.
Des petites entrées, oui, je suis vraiment dans ce genre-là. Mais je considère que j'ai un peu de difficulté des fois à mesurer. Est-ce que j'ai un repas ou des entrées assez qui peuvent me soutenir, en
ouais,
fait,
c'est
tout au long de la journée. Je trouve ça des fois difficile. Là, j'ai un peu lâché l'entraînement, mais quand je m'entraînais, je trouvais ça difficile. Est-ce que je mange avant, après? J'avoue que j'ai un lien avec la nourriture des fois complexe, je te dirais. Souvent, là, je me demande si je fais bien ça.
Mm-hmm.
Je sais pas d'ailleurs si c'est bon de toujours se questionner, de pas juste être en mode, tu sais, instinct. J'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, je mange pas.
Ouais,
ça
ouais,
finit
ouais,
là.
Non, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est plus les femmes que les hommes. Puis j'aimerais ça que les hommes appellent aussi pour dire aux autres ce qu'ils en pensent. Mais moi, souvent, ben, tu sais, je dirais pas que ça m'obsède, mais j'y pense. Puis tu sais, si j'ai envie de manger une poutine une journée, ben là, je vais comme faire attention le reste de la semaine parce que je sais que je vais manger ça. Puis je veux me gâter, tu comprends-tu? Ou si je prends un morceau de gâteau, ben j'égalise le gâteau. Tu sais, j'ai l'impression que j'égalise. Puis finalement, ben il en reste plus tant.
Ok, toi, faut que ça s'équilibre. C'est quasiment mathématique là.
Ouais, mais c'est parce que tu sais, tu dis, je vais juste égaliser. Fait que je vais juste prendre un petit morceau de gâteau. Puis là, finalement, ben j'égalise encore. Puis là, quand j'ai fini d'égaliser, ben j'ai mangé quasiment la moitié du gâteau, tu comprends? Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai un rapport comme ça. Puis je sais aussi qu'avec la pandémie, puis si vous avez des jeunes à la maison, vous allez peut-être comprendre. Moi, mon fils m'a beaucoup inquiétée parce que avec le fait qu'il était confiné à la maison, les études à la maison durant la dernière année, ça fait en sorte qu'il mangeait pratiquement pas. Il déjeunait, puis il soupait, puis je l'ai vu fondre. Oui, il a perdu du poids, mais il grandit en même temps. Mais ça m'a inquiétée.
Oui.
Je ne sais pas si vous, les parents qui nous écoutez, avez des jeunes comme ça, que là, ça a changé un petit peu là, avec les derniers mois parce que il était déprimé aussi, pas de sport, anxieux.
Oui, perte d'appétit.
Ouais.
Goût de manger plus, tu sais, des trucs genre, des trucs préparés, des choses comme ça. Des fois, on n'est pas à la maison. Alors, c'est intéressant. J'ai vraiment hâte de vous entendre. Alors, pour nous appeler, réagir en ondes, 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Par texto, 98985.
Et on va jaser tout de suite avec Sylvain qui est au bout du fil. Bonsoir, Sylvain.
Ah, bonsoir, Valérie. Comment tu vas?
Ben ça va bien, vous?
C'est un petit bout qu'on ne sait pas parler. Puis,
ben oui.
Comme je disais à Justine tantôt, en entrée, mais je pense que nos vies ont changé, pas juste dans les habitudes de travail, dans n'importe quoi, le manger aussi.
Oui, c'est ça. De quelle façon ça a changé pour vous, là, les derniers mois de pandémie?
C'est comme je disais tantôt, j'ai dit, au lieu de manger deux poutines par mois, là, j'en mange deux par semaine, puis, tu sais, nos heures de manger sont plus les mêmes. Comme Justine a dit, on mange un petit peu partout, mettons le matin, l'après-midi, le soir, même dans la fin de la soirée avant d'aller se coucher. C'était pas dans mes habitudes, master. Faut que je mange avant d'aller me coucher pour bien dormir. Tu sais, est-ce que c'est à cause qu'on est hors norme dans une situation qui est un peu plus stressante, qui fait, ben, on se défoule dans le manger? Bon, ça peut être hypothétique que ce que je dis ce soir, mais par contre, j'ai remarqué depuis un an et demi, ça fera bientôt deux ans, mais on gagne du poids, il y en a qui en perdent, il y en a qui en gagnent, puis des fois, je marche à pied, puis je me dis, Seigneur, pas en forme, Sylvain, tu sais, je me dis, hey, ça fait dur ton affaire, tu sais, je vais marcher, mettons, un kilomètre, puis avant, je pouvais en marcher deux, trois, puis j'étais pas essoufflé, puis là, cette heure, faut que je me donne un petit coup de pied pour me dire, ah ouais, Sylvain, sort, parce qu'on n'a pas toujours le goût de sortir, on veut manger, après, on est comme un écureuil, on rentre notre manger, puis après ça, on ne sort pas pendant quelques jours, parce que bon, chacun a sa façon de fonctionner, puis moi, je me dis, ah, c'est pas une bonne façon, ça, là, tu sais, tu sors une fois ou deux par semaine, puis le reste du temps, tu manges, fait que tu brûles pas tes calories, puis tu fais juste, comment qu'on dit ça, engloutir, puis c'est pas, moi, je trouve que si je continuerais comme ça encore un an ou deux, mais ça pourrait m'attirer des... Madame Laverge, ça m'écouterait à toi, je suis canadien, sûrement.
Non, mais c'est sûr que quand on dit quand on prend du poids à chaque année, à un moment donné, au bout de cinq ans, ben ça s'accumule tout ça, hein, vraiment. Merci beaucoup, Sylvain, de votre appel. On va discuter avec mon invitée de ce soir. Elle s'appelle Joanna Montuy-Blanc, directrice et professeure du groupe de recherche Loricor de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est spécialiste des troubles du comportement alimentaire également. Et son groupe s'est mobilisé dès le début de la pandémie en menant une étude intitulée « Quel mangeur êtes-vous ?» lors de cette COVID-19. Madame Montuy-Blanc, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bonsoir. Dites-moi, dans un premier temps, avant la pause, j'ai parlé aux gens à propos de votre type de mangeur. Vous avez parlé, parce que vous avez défini finalement avec cette étude-là trois types de tendances alimentaires. J'aimerais vous entendre là-dessus.
Oui, ben c'est exactement ce que Sylvain est en train de nous dire, en fait. Hein. Dans l'étude... On a commencé à sortir. Alors, on est très très humble avec l'équipe, hein, parce que ça s'est fait sur à peu près 60 de personnes, majoritairement des femmes, hein, parce que bien évidemment les femmes se sentent parfois plus à l'aise pour prendre la parole et pour expliquer leurs enjeux alimentaires. Par contre, ce qui a été criant au niveau des résultats, c'est qu'on a un type de mangeur qui était plus ou moins relaté dans les écrits scientifiques, mais qu'on n'avait pas pu vraiment identifier, qui s'appelle le mangeur perceptuel.
Okay.
Alors ça, c'est un peu ce que nous disait Sylvain quand il nous dit, j'ai la perception que je me vois d'une certaine façon. Il nous parle de la partie de la sensation de l'écureuil. Hein. Il nous dit, j'ai l'impression de faire mes réserves. Mm-hmm. Sauf que l'écureuil, lui, à la différence de Sylvain, c'est qu'il ne le fait pas de façon consciente. Hein. Donc, il va avoir l'envie d'aller manger. Puis après, il va hiberner, il va perdre son poids. L'être humain, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a son cerveau qui lui dicte plus ou moins ce qui se passe. Donc, dans les mangeurs perceptuels, ce sont des hommes et des femmes qui se retrouvent dans la situation de Sylvain, c'est-à-dire, par rapport à la forme corporelle qu'ils vont avoir, ils vont moduler leur façon de manger. Tout à l'heure, on entendait aussi, quand j'ai commencé à me dire que j'allais prendre du poids, j'allais couper mon gâteau en deux, j'allais compenser. Mm-hmm. Ça, c'est le cerveau qui se dit ça. Mais le corps, lui... ça marche pas tout à fait de la même façon. Donc ça, c'est le deuxième profil de mangeurs qu'on a trouvé, c'est les mangeurs restrictifs. C'est-à-dire ceux qui font leurs calculs et qui vont se restreindre pour essayer de faire une compensation. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce système-là, on commence à faire partir la roue de la culpabilité. Donc pour désamorcer cet élément-là, il y a un troisième mangeur qui arrive, c'est le mangeur intuitif. Alors le mangeur intuitif, lui, il prend complètement le contre-pied. C'est-à-dire qu'il met de côté la partie... du calcul calorique, il va mettre de côté la façon dont il se perçoit et il va essayer de se reconnecter à l'aliment, tout simplement. Mon gâteau, je l'assume, j'ai envie de le manger maintenant. Mais tant qu'à faire la job, je vais la faire complètement. Je vais prendre le temps de le regarder, de le sentir, de prendre ma pleine bouchée, d'avoir la sensation du gâteau qui dégouline dans ma bouche et je vais prendre le temps de me faire plaisir. Et là, on s'aperçoit que chez ce type de mangeur-là, pendant la Covid, bien naturellement, on n'a plus tant envie de manger des gâteaux que ça parce qu'on a pris du temps à chaque bouchée.
Ah, okay.
Donc vous voyez, ce type de mangeur, en Covid, c'est comme si on avait une expression de trois vraiment profils de mangeurs dans notre échantillon, bien évidemment, avec beaucoup d'humilité. Le mangeur intuitif qui mange calmement, pleinement, en savourant ce qu'il a dans ses yeux, ce qu'il a dans son nez, puis ce qu'il voit. Et qui se fait plaisir. Le mangeur perceptuel qui, lui, va manger pour équilibrer sa silhouette, pour son corps. Et puis après, le mangeur qui est le plus à risque, finalement, c'est le mangeur qui va être très restrictif et qui va manger par culpabilité, va sans cesse compenser en essayant de diminuer ses rations.
Voilà. Mais quand on regarde, c'est ça, avec le confinement qu'on a connu dans les derniers mois, ouais, et tout ça, évidemment, ça amène de l'anxiété aussi. Je pense notamment aux jeunes, là, c'est pas pour rien que les troubles alimentaires ont grimpé en flèche avec l'arrêt aussi des activités physiques. Il n'y avait pas accès nécessairement aussi facilement. Ça aussi, les jeunes ne veulent pas commencer à prendre du poids puis commencent à s'inquiéter.
Tout à fait. Donc ça, là, après, c'est le mécanisme. Mais ça, c'est le mécanisme rationnel qui embarque. Parce que, bien évidemment... La situation d'activité physique, on a tous trouvé, ou on a tous plus ou moins essayé de trouver des solutions, d'accord? Il y a ceux qui ont commencé à s'entraîner chez eux pour se réguler. Il y a ceux pour lesquels, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans d'autres pays comme en France, pour lesquels on a interdit l'autorisation d'aller dans les parcs extérieurs, d'accord? Contrairement au Québec, au Canada. Donc, on a tous essayé quand même de prendre le temps de prendre notre part. Mais l'étude qu'on mettait en évidence, les personnes qui nous ont écrit, c'est qu'on s'est aperçu que les mangeurs intuitifs, ce sont ceux qui ont gardé une activité physique, mais une activité physique en pleine conscience. Je prends ma marche, puis je prends le temps de prendre ma marche. Ce sont ceux aussi qui ont vraiment investi la cuisine. Donc, dans notre étude, on s'aperçoit que les mangeurs intuitifs, ceux qui peut-être avaient des anxiétés puis qui ont pris le contre-pied, mais se sont mis à cuisiner.
Okay.
Puis, vous voyez-vous, les études qui montrent que les gens qui passent du temps à cuisiner sont souvent des personnes qui vont passer moins de temps à manger.
C'est vrai.
Parce que le fait de cuisiner, je ne sais pas si vous êtes d'accord, hein, quand on est tous autour de la cuisine, puis que goûte ça, ce que j'ai fait, goûte ce que j'ai pris, ben, quelque part, on stimule déjà l'envie de faim, hein, mais on la comble quelque part en partie. Donc, quand on arrive à table, finalement, on est très comblé que les gens autour de nous mangent ce qu'on a préparé. Puis finalement, c'est comme si on avait commencé un peu notre repas dans la cuisine. Donc, on diminue sa ration.
Madame Monsieur, oui, excusez-moi. Non, j'allais vous dire, on va s'arrêter juste un court instant, si vous voulez bien. On va aller à la pause, évidemment, puis on va prendre des appels de nos auditeurs à la suite. Donc, je rappelle que vous êtes directrice et professeure du groupe de recherche Le Ricord de l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste des troubles de comportement alimentaire. Donc, on s'arrête un instant. Et évidemment, je vous rappelle les numéros pour nous joindre, 514-790-9850. Ou encore le 1-866-790-9850. Il y a le texto aussi où vous pouvez nous écrire. Mais si vous avez envie de nous jaser, on aimerait ça vous entendre. Et ce soir, l'émission, on veut savoir, on veut connaître en fait votre rapport sain ou malsain avec la nourriture. Quel type de mangeur vous êtes? On a discuté avec notre invitée, Mme Montuy-Blanc, qui parlait de trois types de mangeurs. Puis qu'il y a c'est des types qui sont apparus aussi. Il y en a un qui est apparu durant la pandémie. Et Justine, il y a quelques commentaires qui sont entrés.
Quelques commentaires via le 98985. Donc, Eric qui nous dit, moi, je suis le type de mangeur qui recherche la solution facile. Donc, resto et mets préparés. On a quelqu'un qui nous écrit, manger, je mange quand j'ai faim, lèvres sèches, ben, je suis déshydratée, je bois, mon estomac grogne, gargouille, ben, j'ai faim. Je trouve tellement que manger maintenant, c'est rendu commercialisé. Il y a beaucoup de gens qui nous posaient des questions aussi sur le fait quand ils vont à l'épicerie, par exemple, vont vérifier valeur nutritive. Il y a beaucoup de choses à analyser qui relient avec la nourriture. Donc, est-ce que certains consommateurs trouvent que ça devient un peu compliqué?
C'est vrai.
Aux étiquettes.
Oh oui, c'est pas toujours évident.
Maintenant, on a menu bleu, aliments Québec. Oh, il y a tellement de choses sur les aliments. Parfois, c'est dur de s'y retrouver. Et je remarque aussi que la nourriture peut être associée avec une activité. T'sais, exemple, moi, j'écoute un film. C'est sûr qu'il y a des petits
popcorn,
okay, des petites grignotes. Ma fille, c'est pareil, elle associe ça encore, l'activité cinéma, c'est la sortie, c'est la gâterie. Il y a des associations aussi qu'on fait peut-être qui deviennent un peu inconscientes après.
Oh oui, puis moi, si je vais faire une grande course, par exemple, d'une activité physique, là, ben là, je me dis je vais me récompenser après ça avec une poutine. T'sais.
Oui, puis là, depuis que tu parles de poutine, depuis tantôt, il y a des gens qui nous écrivent via la messagerie texte, vous me donnez envie d'en manger une. Alors,
oui, c'est ça, on n'a pas soupé nous autres encore.
C'est
là.
Ça. Alors, rappelez-nous pour nous dire ben quel est votre rapport avec la nourriture, 514-790-9850, 1-866-790-9850.
Et on va poser la question à Ronnie, fidèle auditeur du 95. Bonsoir, Ronnie.
Bonsoir, chère Valérie. Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, un beau sujet, un sujet un peu crispant, ça. Moi, je trouve ça tellement croustillant d'aller faire mon épicerie. Mais depuis environ un an et demi, moi, j'étais malade. J'ai eu deux fois la COVID.
Ah, OK. Oh my God.
Et puis, finalement, j'ai eu aussi une myocardie au mois de juin. Mais j'ai tout le temps fait attention. Puis moi, j'ai une phobie pour le sodium et les gras trans. Je regarde tous les ingrédients, les valeurs nutritives, là. Mais le monde, aujourd'hui, je regarde leurs épiceries, là, les congelés, là, les prêt à apporter, là, mm-hmm. c'est rempli de sodium. Le monde, là, sont jeunes dans la quarantaine. Moi, j'ai 60 ans. Là, je ne parlais pas mon âge, là, mais je fais attention. Mais le monde ne prenne pas le temps de cuisiner. Là, je vous parle, je suis en train de faire des piments farcis.
Ah, OK. C'est bon.
C'est tellement bon avec des pois chiches dedans, des légumineuses, là. Valérie, c'est tellement nutritif. C'est bon pour le mental, c'est bon pour la santé.
Donc, vous êtes vraiment un mangeur informé, en fait. Vous vous tenez au courant, puis vous regardez vraiment ce que contiennent les produits que vous achetez.
Oui, parce que la santé, OK, je ne prends aucune médication. Mais j'ai eu son 1 an au mois de mai, malgré que j'ai eu 2 fois la COVID l'an passé, puis la myocardie avec le vaccin. Là, je l'ai pas eu facile. Je suis en santé. Imaginez-vous, ceux qui sont pas en santé, comment ils vont réagir avec la COVID?
Oui, oui, non, clairement.
Merci. Ça a comme une répercussion, mais j'adore cuisiner. Comme hier, je suis descendante italienne, j'ai fait du bon poulet cacciatore. C'est tellement bon, c'est santé, mais les légumes puis les fruits, surtout cette année-ci, on en a en abondance. Le monde, mm-hmm. je regarde leur panier, ils ont rien de bon. C'est tous des produits. Des pogo, même un hot dog, là, c'est 36 minutes de moins dans une vie.
Oui, ben oui, j'ai vu ça, cette nouvelle-là passer. Mais vous avez raison, c'est vrai que souvent, on regarde dans les paniers de l'autre, puis on juge un peu. On va jaser avec Martin maintenant, qui est là. Bonsoir, Martin.
Moi, pendant la COVID, je dirais que j'avais l'impression que j'étais sur la bonne voie, que je mangeais plus souvent à la maison, puis tout ça. J'étais pas très take-out, là. Ça m'intéressait pas vraiment, là, de manger, tu sais, de réchauffer à la maison puis de manger froid, tout ça. Mm-hmm. Fait que je me suis beaucoup plus fait à manger puis tout ça. Puis je pense que ça semblait bien, mais pendant la COVID, c'est sûr que t'as des réflexions, tu sais, ton bon repas à telle place puis ton petit plat, tu te souviens, puis tel restaurant, puis j'ai hâte d'y retourner puis tout ça.
Puis là, on peut le faire.
Fait que là, dès que ça a réouvert, là c'est sûr qu'on est retombé dans des habitudes. Ça, c'était fatigant parce que ça nous manquait, là. Tu sais, là, là, j'ai l'impression que j'ai débordé de l'autre côté, là.
Ah, donc là, il va falloir commencer à refaire des lunchs, peut-être, puis à lâcher les restos, peut-être le midi ou des trucs comme ça.
Oui, ben c'est ça, là. Tu sais, je pense que une fois qu'on va avoir fait le tour une fois de tout ce qui nous avait manqué pendant la COVID, là, une fois que le tour va être fait, ben il va falloir se rappeler de pendant la COVID ce qu'on faisait de bien puis tout ça puis plus souvent manger à la maison, je pense, je dirais là.
Ben merci beaucoup Martin de votre appel.
Merci.
Bonne soirée. On va discuter avec notre invitée Johanna Montuy-Blanc, qui est directrice et professeure du groupe de recherche Loricor de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également affiliée au Centre de recherche de l'Institut de santé mentale de Montréal. Madame Montuy-Blanc, quand on écoute les commentaires des différents auditeurs, on se rend compte, bon, il y en a qui sont très informés, il y en a qui vont pencher plus vers le prêt-à-manger aussi. Ça, c'est devenu très populaire pendant la pandémie.
Oui, tout à fait. Puis vous avez remarqué ce que dit Benoît, hein, à un moment donné, il s'est remis à cuisiner, à ramener les éléments à la maison. Donc, il y a pas forcément de côté noir ou de côté blanc. D'ailleurs, l'étude qu'on est en train justement d'approfondir avec des chercheurs qui travaillent en intelligence artificielle, c'est fascinant de regarder comment les comportements s'opèrent et de quelle façon ils s'opèrent. Donc là, c'est des résultats qu'on est en train de travailler. Mais ce qui est flagrant, c'est un point que vous avez tout à fait nommé tout à l'heure, Justine et Valérie, en disant finalement l'acte de manger, c'est un baromètre du bien-être et de la santé. Mmh. Mais c'est avant tout très général. C'est-à-dire qu'il y a des ingrédients qui sont de l'ordre du marketing alimentaire, il y a des ingrédients qui sont culturels. On n'a pas parlé des cultures, puis je suis très heureuse d'entendre aujourd'hui des hommes prendre la parole. Parce que souvent, vous avez remarqué, quand on parle de troubles des conduites alimentaires, comme vous en avez nommé, on pense encore que c'est simplement des troubles qui sont réfugiés chez les femmes. Alors qu'en fait, on s'aperçoit clairement depuis quelques années que finalement, ben, il y a vraiment des hommes qui ont toute leur place aussi pour expliquer comment, quels sont leurs enjeux. Donc, le take-out, c'est toujours pareil. Il y a deux types de take-out, si vous êtes d'accord avec moi. Il y a celui qui est vraiment tout prêt, mm-hmm. on le dépale puis on le mange. Puis, peut-être comme vous, comme moi, là, moi, j'ai vraiment pris le temps tous les vendredis soirs avec mon conjoint de nous faire apporter un take-out. Puis moi, j'ai tendance à être un mangeur intuitif, vous vous doutez. Mais puis je l'ai travaillé, j'ai cultivé. Mais c'était un take-out, il fallait monter les choses.
Ah, okay.
Donc, vous prenez votre viande, vous le mettiez à 400 degrés dans le four, vous ajoutiez. Puis là, on se faisait comme un petit bistronomique à la maison. Puis c'était notre coutume le vendredi soir pour nous retrouver, mon conjoint et moi. Donc, vous voyez, il y a quand même... Il faut faire très attention de ne pas... OK, take-out égale malbouffe égale junky food, je ramène à la maison puis je consomme. Il y a aussi OK, je ramène à la maison, puis c'est moi qui le monte, dans des belles assiettes, avec de la musique, avec des petites bougies, ce que vous voulez, là. Mm-hmm. Mais ça, c'est le mangeur intuitif. Puis il y a des clés comme ça à développer. Puis Benoît, il nous dit, ben, moi, j'étais dans une habitude que j'ai vraiment aimée, puis là, hop, ça y est, ça réouvre. Alors, je recommence à ne plus faire mes lunchs et à plus monter mes affaires. Mais c'est peut-être un peu pareil que le télétravail. Peut-être qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on a aimé quand on était chez nous et qu'est-ce que ça nous donne comme possibilité de nous reconnecter parce qu'on a du fun d'être à l'extérieur pour partager des choses. Et donc là, c'est de manger, c'est aussi un acte social. Hein.
Oui, oui, non, clairement. Et j'aimerais vous entendre à propos des fameux lunchs parce qu'on sait que c'est un casse-tête aussi. Là, l'école est recommencée, puis là, faut recommencer à faire des lunchs pour les enfants. Puis justement, c'est de leur apprendre aussi des bonnes habitudes alimentaires, tout dépendant de ce qu'on met dans la boîte à lunch. C'est pas évident pour les parents, mais c'est pas évident non plus pour les jeunes.
Oui, vous avez raison. Puis je ne sais pas si vous le constatez vous aussi, peut-être en tant que maman, c'est qu'on commence à assister à des écoles qui ont commencé à supprimer tout ce qui était allergigène, d'accord. Oui, oui. Donc on a enlevé les graines, des choses comme ça. Puis maintenant, on n'a plus le droit aux produits transformés. Ok. On nous demande de plus en plus d'avoir des produits, du fruit d'entrée, tout simple. Puis c'est toute une question là-dessus là. Est-ce que faut-il avoir classé les aliments comme étant sains ou étant malsains? Ou faut-il se poser la question de faire des lunchs qui amènent le fait d'avoir des aliments qui soient croquants, qui soient de couleurs différentes, qui en aient envie? Parce que moi, voyez-vous, je suis une maman de 3 enfants. Hein. Ils ont respectivement 2, 4 et 6 ans.
Okay.
Ben, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je ne peux pas lui emmener, par exemple, des graines de soja noir avec un petit soya ou avec un petit... Non. Il faut quand même que ça ait des couleurs sympas, que ça ait des odeurs sympas, que ce soit vraiment appétissant. Puis c'est ça, l'alimentation intuitive. C'est d'avoir du plaisir, d'avoir du fun de le manger, mais pas parce que j'ai du plaisir de manger des croustilles comme ça que je mets dans ma bouche sans véritablement avoir la saveur. Puis voyez-vous, dans les écoles maintenant, de plus en plus, puis je fais partie, il faut vous douter, des mamans qui essayent de amener la culture d'alimentation intuitive très jeune parce que nos enfants, il faut le savoir, ils naissent mangeurs intuitifs.
Okay.
Ils s'arrêtent quand ils n'en peuvent plus et ils mangent quand ils ont faim. Vous êtes d'accord avec moi? Nos petits, quand ils naissent, je mets n'importe quelle personne ici, auditeur, de laisser un enfant qui a faim dans une voiture. Il crie tellement que tu es obligé de t'arrêter pour l'allaiter ou pour lui donner quelque chose. On est d'accord?
On est d'accord.
Donc là, on voit bien que nos enfants, ils sont équipés pour être des mangeurs intuitifs. C'est notre société autour de nous qui crée peut-être une transformation de l'intuition et qui amène justement des bons et des mauvais aliments. Sauf que ce qui est bon et ce qui est mauvais au Canada, c'est certainement très différent de ce qui est bon et ce qui est mauvais aux Philippines, qui est encore très différent de ce qui est bon et mauvais en Afrique du Nord. Donc la notion de bon et de mauvais, ça aussi, elle appartient à la société. Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends. Mais pour les gens là, qui ont pris des mauvaises habitudes durant les derniers mois, justement, parce que bon, certains ont décidé, finalement, de manger davantage parce qu'ils étaient plus souvent à la maison. Comment on fait pour reprendre là, des bonnes habitudes alimentaires?
Ben, dans l'étude, puis avec beaucoup d'humilité, on donne quelques pistes. La première piste, par exemple, c'est toutes les personnes qui ont été chez eux pendant la COVID et qui sont devenues vraiment des phobiques de la balance. D'accord?
Mm-hmm.
Puis la balance, on le sait, hein, la balance, elle veut nous rassurer, mais c'est une fausse rassurance. OK? Parce que ça nous donne une indication très, très limitée de ce que notre corps est. Okay, on peut avoir un poids qu'on est, mais pas nos formes corporelles. On est d'accord?
Oui.
Puis à la COVID, on a peut-être stocké, c'est vrai, un peu plus d'alimentation. Et puis ça a amené des formes différentes du corps qu'on n'aime pas. Mais ce n'est pas la balance qui va nous indiquer comment on est. C'est la façon de se sentir dans notre corps. Okay,
mm-hmm.
Le deuxième aspect, c'est pareil, s'entraîner à s'écouter. Je défie les personnes ce soir de dire, OK, on est lundi, puis peut-être quand je vais avoir envie de me faire mon jeudi du 5 à 7, entre amis, je vais prendre le temps de savourer, de goûter ce que sont les aliments. Puis, les bonnes et les mauvaises habitudes, c'est toujours pareil. Une habitude, vous savez, c'est quelque chose qui est très puissant. Changer une habitude en science, c'est 5 ans à la même fréquence. Donc, par exemple, si je vous dis demain, vous arrêtez de fumer et que vous me dites ça fait 2 ans que j'ai arrêté, attends 5 ans pour voir si c'est bon. Et surtout avec la même fréquence, c'est-à-dire si tu fumes une cigarette par semaine, il faut que dans 5 ans, tu gardes une cigarette, pas plus par semaine. Je donne la consommation de cigarettes parce que ça parle vite aux personnes. Donc, vous voyez, arriver à manger, à changer d'habitude, une habitude, c'est très puissant, c'est très ancré. Donc là, toujours pareil, faut juste arriver à être se sentir un peu moins coupable et lâcher prise. Tu sais, c'est quand on lâche prise, il y en a qui vont m'entendre et qui vont me dire, ouais, mais là, si je lâche prise, moi, je vais à Costco, par exemple, puis j'achète le paquet de chips. Vous savez, les énormes paquets, là.
Oui.
Je suis capable de me le descendre jusqu'à la fin pour être, et puis parce que je me fais plaisir. Oui, mais est-ce que tu prends le temps de savourer chaque chips?
Non, c'est ça. Hein. Souvent, puis on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, la vie va vite, ça court, puis là, ça fait en sorte qu'on mange même rapidement.
Puis on regarde la télé, on regarde son ordi, on fait encore son 315 zoom de la journée.
Non, c'est
ça. Et donc, on mange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on duplique la multitâche. Là, on est dans une société de multitâche. Et manger en multitâche, c'est pas ce que font les enfants quand ils naissent. Quand ils mangent, ils mangent. C'est l'idée.
Merci beaucoup, Mme Montuy-Blanc, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes directrice et professeure du groupe de recherche Loricor de l'Université du Québec à Trois-Rivières, spécialiste des troubles du comportement alimentaire et également affiliée au Centre de recherche de l'Institut de santé mentale de Montréal. Merci. Évidemment, on veut vous entendre si vous avez envie de nous raconter un petit peu quel genre de mangeur vous êtes, si vous êtes intuitif, si vous prenez le temps, comme disait notre invité ce soir, de goûter les choses ou si au contraire, on y va puis on mange rapidement puis des fois, on mange un petit peu trop, puis la pandémie a changé les habitudes alimentaires. On veut vous entendre 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. Il y a le texto aussi, le 98-985. On attend votre appel au retour. Restez là. On va se dire, on n'est pas gêné ce soir. On veut vraiment savoir votre rapport avec la nourriture. Est-ce que vous êtes avez un rapport sain ou malsain? Est-ce que vous êtes un mangeur émotif, par exemple? Puis quand on regarde cette étude qui a été faite justement du côté de Sainte-Justine où on a atteint des records de patients avec des troubles de conduite alimentaire qui ont dû être hospitalisés, tout ça dans le cadre de la pandémie, les visites aux urgences pour les troubles alimentaires dans les hôpitaux pour enfants notamment, là, ça a bondi de 62 % de 2018-2019 à 2020. Puis il y a beaucoup d'anxiété chez les parents, chez les jeunes, ce qui fait en sorte que, tu sais, on a changé la routine, on était confinés, il y a eu beaucoup d'adaptations à faire. Puis il y a des gens, ben, tu sais, quand on pense aux jeunes, Justine, qui ont dû arrêter l'entraînement, ils se disaient, ben là, si j'arrête de m'entraîner, je vais-tu prendre du poids? Fait que là, évidemment, ça développe des fois des troubles alimentaires, on devient obsédé par ça.
Mm-hmm, tout à fait. Ça me fait penser au commentaire qu'un auditeur nous envoie via le 98985. Je mange ce que je veux quand j'ai faim. Il faut être très à l'écoute de son corps. Et je pense que certaines personnes se battent un peu contre ça. Mm-hmm. Parfois, justement, se restreignant, un peu comme l'expert disait, on dirait que parfois, au niveau des... On veut être, tu sais, très égal, un peu ce dont tu nous parlais tantôt, disant, ben là, si je mange une poutine après ça pour le reste de la semaine...
Je fais attention.
Il y a un côté très, tu sais, punition. Tu sais, on essaie de... Je trouve ça particulier. On a quelqu'un qui dit, durant la COVID, j'étais mince maintenant. J'ai pris vraiment beaucoup de poids. Je suis rendue gros. Il y en a que c'est vrai qui ont développé cette espèce de côté, est-ce que ce serait devenir un mangeur émotif? On
peut-être
a mangé nos émotions, il y en a que c'était l'alcool, il y en a que c'était autre chose. On a développé donc un autre comportement envers la nourriture. Est-ce que ça veut dire qu'on s'en va vers le trouble alimentaire? Peut-être pas, mais il y a tellement beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'experts là maintenant qui sont qui peuvent nous aider, justement, nutritionnistes, diététistes.
Oui, parce que tu vois, il y a quelqu'un qui nous écrit, Alexandre, il dit que lui, la pandémie lui a rentré dedans. Avant la pandémie, il pesait 380 livres. En février dernier, il a tapé le 480. Manque d'exercice, il adore manger. Il dit, par contre, il dit, j'ai quand même une bonne alimentation, mais le problème, c'est les portions, c'est pas la qualité. On a juste ça à faire manger. Il dit que là, il y a une bonne nouvelle. Par contre, là, il a perdu du poids depuis février dernier. Lui, il jeûne 15 heures consécutives par jour. Ce matin, il était à 400,4 livres. Mais c'est aussi le jeûne intermittent. C'est très à la mode, ça. Ah,
il y a
plein de personnes qui font ça.
Oui, il y a plein de tendances. Il y a ceux qui font le régime cétogène, keto et tout ça. Quel est votre rapport avec la nourriture? Est-ce que vous êtes un mangeur émotif, intuitif, un expert des régimes alimentaires? 514-790-9850, 1-866-790-9850.
Et il y a également Patrick qui nous écrivait pour dire que lui a vécu beaucoup d'anxiété avec la pandémie. Puis lui, contrairement à Alex qui nous a écrit, ben il dit « Moi, j'ai perdu 25 livres ». Avec la pandémie. Donc, ça dépend. On réagit pas tous pareil, évidemment. Et là, on va discuter avec Benoît qui est au bout du fil. Bonsoir, Benoît.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va très bien, merci.
Alors, vous, votre rapport là, par rapport avec la nourriture, est-ce que vous avez un rapport qui est sain ou malsain?
Moi, je vais te dire, depuis la pandémie, j'ai un rapport très sain. La pandémie m'a amené beaucoup de bons côtés parce qu'avant, ben, je pourrais te dire que si j'avais pas le temps de faire mon lunch, je me disais, c'est pas grave, j'ai le restaurant qui va me dépanner.
Ah, ben oui.
Vous comprenez? Mais là, quand les restaurants, ils ont fermé, il y a eu le shutdown aussi, tout le kit, ben là, ça m'a forcé à faire des lunchs. Fait que mes lunchs, ben, ils ont été comme plus sains. Fait que là, je choisissais vraiment ma nourriture. Fait que plus de légumes, des salades, la nourriture, peu importe. Fait que là, à un moment donné, mes habitudes, je m'en rendais pas compte, mais étaient plus sains. Puis, dernièrement, j'ai acheté une poutine. Ben, okay. Croyez-le pas, ben, j'ai été quasiment malade.
Ah oui, hein, parce que là, votre corps est habitué de manger des bonnes choses.
C'est ça. Ben, exactement. Fait que là, je comprenais pas. Mais voyons donc, pourtant, avant, je mangeais une poutine quasiment une fois par semaine, une fois plus, puis ça passait tout le temps bien. Ben, c'est ça. C'est à cause que, malheureusement, ben, pas malheureusement, heureusement, ben, la pandémie, ben, m'a amené un côté plus sain. Et, justement, ça m'a, ben, à cette heure, même si les restaurants ont ouvert, ben, je suis plus porté à faire mes lunchs, mes affaires, fait que, à mieux manger, à choisir vraiment plus mes, comment je pourrais dire ça, mais la qualité de ma nourriture. Fait que, ça porte tout le temps des bons côtés, la pandémie, mais pour moi, ce côté-là m'a aidé beaucoup.
Puis en même temps, Benoît, vous devez vous sentir plus en forme aussi, là, tu sais, quand on quand on mange mieux.
Exactement. Oui, exactement. C'est, j'ai vu une différence, mais ça a été vraiment à long terme, là, on s'entend, là. Ça a été pas fait du jour au lendemain, là. Mais, en tout cas, moi, je trouve que, justement, à cette heure, ben, ça m'a remis un peu ses pieds sur la terre en disant que, ah, ben, finalement, le restaurant, ben, c'est pas tout le temps, c'est pas juste le McDonald's, là, mais je parle même des restaurants comme assez réputés, je peux dire, ben, ils en mettent des cuillerées de sel et de sucre là-dedans, là.
C'est sûr.
Je sais pas vraiment. Fait en même temps, ben, regarde, c'est plus de sous dans mes poches, puis ça m'a, moi, je trouve pas vrai, là, ça m'a donné une bonne habitude de stress, ça. Ouais.
Ben, bravo, puis continue comme ça. Merci beaucoup de votre appel. Benoît,
ça fait plaisir.
Bonne soirée. On va discuter avec Luc maintenant, qui est là. Bonsoir, Luc.
Salut. Moi, avant, j'étais un gros mangeur. Je vidais les assiettes de mes copains de table.
Ah oui?
Et oui. Et puis, la dernière croisière que j'ai faite, rendu à la mi-croisière, il savait. Fait qu'à tous les repas, il m'emmenait toujours deux portions de tout.
Il a là.
Mais il y a des fois que je mangeais, puis après ça, ça paraissait pas. Je me sentais pas plein. Là.
Mm-hmm.
Mais là, ça fait 2 ans que j'ai une job que je suis assis. J'ai un bureau, puis je bouge pas,
okay.
Presque pas. Fait que là, j'ai engraissé, puis je sais que j'ai un problème de cœur, puis je suis un peu plus essoufflé. Mais depuis 3 mois, j'ai 2 jobs, fait que je travaille 2 jours, je travaille le soir, puis je me suis dit, moi, en faisant ça, moi, je vais plus fatigué, je vais peut-être perdre un peu plus de poids, puis à date, j'ai perdu 5 livres.
En 3 mois?
Ouais, 3 mois.
Okay.
Fait que, mais c'est vrai que l'exercice, j'en fais pas beaucoup, pour pas dire pas partout.
Ouais, non, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, c'est ça, de vider les assiettes? Parce que, tu sais, dans un groupe d'amis, il y a souvent, nous aussi, ben, j'ai un groupe d'amis, puis il y a quelqu'un qu'on l'appelle la mouette. On va au restaurant, puis on sait très bien que lui, il va venir les assiettes de tout le monde, là. Mais vous, qu'est-ce qui faisait que. C'est parce que vous êtes gourmand ou c'est parce que vraiment.
Peut-être gourmand, le fait qu'eux autres, il y avait plus de place, t'es plus capable. Que moi,
tant qu'à boire ça, ou.
C'est ça. Fait, tant qu'à gaspiller, puis jeter, ben, moi, j'ai encore de la place, ça rentre, pas de problème.
Ouais, non, j'avoue. Merci. Merci beaucoup, Luc. Puis de votre franchise aussi, hein. C'est gentil de m'avoir raconté ça ce soir. Bonne soirée.
Moi aussi. Bye.
Merci. Bye-bye. On va s'arrêter un instant, évidemment. On va aller à la pause et au retour, on va prendre vos appels. On vous demande ce soir quel type de rapport vous avez avec la nourriture. Est-ce que c'est un rapport sain, malsain? Quel type de mangeur êtes-vous? Est-ce que vous êtes un peu comme Luc qui vidait les assiettes des amis comme ça ou même les assiettes de vos enfants? On le sait, c'est souvent le papa qui fait ça, là, tu sais, qui va terminer les assiettes des jeunes qui mangent pas de tout. Bref, vous pouvez nous rejoindre au 514-790-9850. Partout au Québec, c'est le 1-866-790-9850 ou encore le texto le 98985. Et ce soir, on discute de bouffe. En fait, on veut savoir le rapport que vous avez par rapport avec la nourriture. Le rapport avec la nourriture, est-ce qu'il est sain ou malsain? Il y a Sandrine qui nous écrit, Justine, qui dit qu'elle, avec l'arrêt des gyms pendant la pandémie, elle s'est mise à s'entraîner à la maison, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis là, elle s'est mise à stresser justement du fait qu'elle ne pouvait plus aller s'entraîner comme elle le faisait régulièrement 4 à 5 fois par semaine. Là, commencé à calculer ses portions, puis elle dit là vraiment, là, je recommence tranquillement avec l'ouverture des gyms à manger sainement, mais je sens que j'ai encore ce problème-là, tu sais, du fait que là, on commence à calculer puis on fait attention.
Oh, moi, j'ai déjà fait ça une fois dans ma vie, cette espèce de régime de tout calculer, plus de sel, plus rien. J'étais tellement malheureuse, j'ai arrêté ça au bout de quelques semaines, j'étais quasiment, sérieusement, j'étais devenue presque dépressive. On dirait que tout tournait autour de ça.
Tu penses rien qu'à ça?
On pense juste à ça et ça devenait justement pas sain. On a quelqu'un qui nous écrit 98985. Moi, je suis gamer avant la pandémie et avec la pandémie, je n'ai pas changé côté nourriture. J'ai juste fait plus de popotes. C'est vrai qu'il y en a qui ont commencé à cuisiner, qui ont commencé à s'intéresser un peu aux aliments. On avait plus de temps justement à regarder l'intérieur de notre frigo.
Ouais,
on n'avait pas bien le choix. Donc, comment on gère ça? Est-ce que tu remarques aussi qu'il y a beaucoup de blogs santé, des blogs, des pages Facebook aussi avec des recettes et tout Tu sais, je vous parle des lunchs de ma fille depuis les dernières semaines. Là. Mais ça fait partie aussi de ce lien-là. OK, qu'est-ce que je mets dans la boîte à lunch? Je veux qu'elle ait du plaisir aussi à manger avec les amis. Il faut que ça soit simple.
Ben oui, puis là, elle va te dire, ah ben moi, tel ami, elle mange ça, sa mère, a fait ça. Puis il y a comme une compétition aussi qui s'amène.
Ah, c'est ça, hein? Ouais. Je m'en viens vers ça.
Ouais, tu t'en vas dans ça. On va discuter avec Marc-André qui est au bout du fil. Bonsoir, Marc-André.
Oui, bonsoir.
Alors, vous, quel est votre rapport par rapport à la bouffe? Est-ce que c'est un rapport qui est sain ou malsain?
On pourrait dire qu'il était malsain, mais j'essaie d'apprendre à me connaître, d'améliorer ça, dans le fond. Puis, je dirais, dans le fond, sur les 4 dernières années, j'ai perdu à peu près 45 livres.
Wow.
Puis, mais c'est un petit peu à chaque année. Puis, ce que j'ai fait pour m'aider, dans le fond, c'est que j'ai une application que je suis mon poids. Puis, à tous les jours, aux deux jours, je vais marquer mon poids. Puis, là, j'ai fait des petits changements. Mettons, justement, j'ai commencé le jeûne intermittent. Ça fait 2 ans que je fais ça. Je vois que j'en perds. Puis, ben, c'est sûr que, mettons, une fin de semaine que j'abuse, ben, je sais que je prendrai pas mon poids le lundi, mardi, là, moi, les premiers jours passés, je vais reprendre mon poids le mercredi, sinon on peut prendre facilement une dizaine de livres dans la fin de semaine, mais je me suis rendu compte qu'il y a des paliers aussi, c'est que, exemple, une fois que j'ai perdu 10 livres, ben, on dirait que mon corps cherche à aller rechercher les livres qu'il a perdus, fait que là, il faut que je fasse attention pendant une période de 2-3 semaines, pour que mon corps aille reprendre. Ça, on dirait qu'il se stabilise à ce nouveau poids-là. Puis là, je peux recommencer à m'en perdre un petit peu. Puis j'ai tout le temps des plateaux de 10 livres comme ça. Mais ça, à un moment donné, c'est que tu arrêtes de te culpabiliser parce que tu apprends que, OK, c'est normal, j'ai atteint mon plateau. C'est normal que là, mon corps, il combat un peu. Il mange une petite affaire puis il veut reprendre du poids. Là. Fait que ça, tu apprends à te déculpabiliser un petit peu. Mais récompense tranquillement.
Mais Marc-André, est-ce que ça occupe beaucoup de place dans votre tête, tout ça? Ou c'est pas si pire?
Pas si pire. C'est juste à la longue que ça m'avait amené une couple de problèmes de santé, là, des tendinites. J'avais travaillé en Alberta dans des camps de travail, puis en dedans d'à peu près 6 mois, j'avais plus de 40 livres.
Okay.
J'étais un gars en forme, tout ça. Puis la prise de poids vraiment rapide m'a amené des problèmes. Puis là, c'est sûr, j'ai tout le temps été très athlétique, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, mais tu t'en viens. Assez gros, fait que ça change d'estime, tout ça. Fait que là, retravailler là-dessus, puis justement, c'est facile à en gagner, mais c'est pas mal plus facile à en perdre.
Hein? on va se le dire. Merci beaucoup, Marc-André, de votre appel. Bonne soirée.
Merci, au revoir.
On va jaser avec Philippe qui est là. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Et vous, est-ce que vous avez un rapport qui est sain ou malsain avec la bouffe?
J'aime bien manger, mais avec le début de la pandémie, on dirait que j'ai comme moins le temps de me faire à manger là, puisque j'ai augmenté définitivement mon nombre d'heures de travail.
Mm-hmm.
Je suis passé de 55 heures à 65-70.
Donc,
j'ai plus le temps de me faire à manger. Donc, c'est sûr que je suis plus dans le repas préparé, mais j'essaie quand même de bien manger, mais c'est difficile. Là. Surtout que les aliments préparés, il y a beaucoup de sel, beaucoup d'aliments malsains dedans. Donc, c'est sûr que j'ai gagné 5 à 10 livres, là, certainement. Mais c'est sûr que du moment que j'ai la chance, là, j'essaie de bien manger.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète si vous dites, ben là, j'ai gagné ça au cours des derniers mois, là, il va falloir vraiment que je me prenne en main ou?
Ben c'est sûr que une fois que la pandémie va passer, là, c'est sûr que je vais plus avoir de temps là, au niveau de me préparer de la bouffe, quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que ça m'inquiète un petit peu plus parce que là, c'est pas mon poids vraiment que j'aimerais être à long terme. Là. Mais c'est sûr que définitivement.
Mais en travaillant beaucoup aussi, c'est pas évident.
Non, ben j'ai juste pas le temps. Là.
Non, c'est ça. Non, je vous comprends. Je vais vous dédouaner, Philippe. Lâchez pas. Merci beaucoup de votre appel.
Merci, au revoir.
Ah, Justine, c'est vrai que c'est pas évident, puis je trouve ça drôle parce qu'on a beaucoup d'hommes qui ont appelé ce soir.
Tout à fait.
Souvent, un sujet comme ça, tu dis, ça va être des femmes qui vont réagir.
Oui.
Puis non, ça n'a pas été le cas. On se rend compte que les hommes sont préoccupés aussi par leur alimentation, vraiment.
Absolument. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui disaient, moi, j'étais un bon mangeur, puis tu me faisais rire quand tu parlais de finir les assiettes. Mon chum fait tellement ça avec ma fille. Terminer les assiettes. Mais j'essaie de nous voir aussi comme Québécois.
Mm-hmm.
Tu sais, on est des bons mangeurs. On est autour, tu sais, l'heure de la table.
Ben oui, ça fait partie
de ça. Le temps des fêtes, le temps des sucres. c'est vrai qu'on est relié beaucoup à, justement, à la nourriture.
On se retrouve en tout le temps dans la cuisine.
C'est toujours autour de la cuisine. Non, clairement, on a des grandes cuisines.
Clairement. Puis, tu sais, quand on parle les pros du marketing alimentaire aussi, qui sont super efficaces, qui font en sorte que quand on arrive à l'épicerie, souvent, tu sais, on voit les pancartes, puis tout ça, puis les commerciaux à la télé, peu importe, ça fait en sorte que ça nous fait manger aussi. On va se le dire. Merci pour cette belle émission.
Ça donne faim.
Oui, ça donne faim. On va aller manger, là. Merci à Geoffroy qui est derrière la console également. Merci à vous, chers auditeurs, de faire part de vos commentaires dans cette émission. Puis on se retrouve demain pour un autre Parlons-nous. Bonne soirée.